fièvre.
Salut à vous, vous êtes sur RDIWA, la radio du DIWA 107.5 FM dans la zone couverte par l'émetteur et sur le net, partout ailleurs via le site internet à la recherche du groove perdu, session 204. J'ai perdu ma voix pour l'occasion, elle reviendra peut-être pendant l'émission mais ça m'étonnerait. Donc désolé par avance pour cette voix caverneuse, émission musicale centrée sur les musiques, les peuples et leur histoire, diffusion le lundi à 21h et rediff le jeudi à 10h. Ce soir, quatrième émission consacrée aux protest songs et troisième du triptyque centré sur la cause des Noirs aux États-Unis. On va s'intéresser pour cette dernière au mouvement Black Power et sa musique des années 60 et 70. Black Power, c'est le nom d'un livre paru en 1967 et écrit par l'homme Stokely Carmichael, membre du Black Panther Party, dont on reparlera plus tard et accessoirement compagnon d'un temps de Myriam Makeba. On reprend le cours de l'histoire au milieu des années 60, un an quasiment après le discours de Martin Luther King devant 200 000 personnes. Le Civil Rights Act est signé le 2 juillet 1964 par le président des États-Unis de l'époque, Lyndon Baines Johnson. Cette loi déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Cette loi contribua à réformer la société américaine dans la mesure où elle interdisait la discrimination dans les bâtiments publics, dans l'administration, les emplois. Les lois Jim Crow des États du Sud furent abolies ainsi que la ségrégation raciale dans les écoles et ailleurs. Cette année 1964 est aussi celle de la sortie d'une chanson qui a écrit l'histoire et qui est devenue au cœur des années 60 l'hymne de la lutte des Noirs américains, Sam Cooke, précurseur de la soul en gestation et ancien membre du groupe de gospel Soul Stirrers, admire les talents de songwriter de Dylan, tout particulièrement la chanson Blowing in the Wind. L'idée d'une chanson engagée va alors mûrir en lui. À son tour, il compose ce qu'il souhaite voir devenir un hymne plein d'espoir, A Change is Gonna Come, un titre qui évoque les changements positifs qui interviennent alors enfin pour les Blacks. Son refrain accompagnait souvent Martin Luther King lors des marches pour les droits civiques. On commence cette émission avec ce morceau chargé de symboles d'histoire et d'espoir, Sam Cooke, Change is Gonna Come.
Brother, help me please.
But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
À partir du milieu des années 60, le mouvement noir pour la liberté et les droits civiques entre dans la deuxième phase, et ce jusqu'en 1975, le mouvement du Black Power. Cette loi de 1964, tout le bénéfique qu'elle fut, ne régla pas pour autant les problèmes du quotidien pour les habitants des ghettos noirs. Des émeutes se multiplient et marquent un tournant violent entre la ségrégation et l'avènement d'une révolution culturelle noire américaine. Une partie des blacks déçus par le pacifisme de Luther King et la lenteur de l'amélioration du sort des leurs s'impatiente. Le 11 août 1965, le contrôle routier d'un noir par des policiers dégénère et met le feu aux poudres. Le quartier de Watts à Los Angeles s'embrase, les incendies font rage. Les pillages et les meurtres s'enchaînent. Le feu couvait depuis des années dans la mesure où les noirs vivaient dans des quartiers insalubres et subissaient les violences policières et la pauvreté au quotidien. Le quartier se transforme en zone de guerre pendant 6 jours. Le bilan est lourd. 34 morts, 1100 blessés, 4000 arrestations, pas loin de 1000 bâtiments endommagés, des patrouilles militaires et un couvre-feu décrété. Les émeutes de Watts sont les premières du genre aux États-Unis. Elles marquent aussi la radicalisation du mouvement de libération des Noirs et la fin de la non-violence. Ces émeutes vont inspirer Frank Zappa sur sa chanson Trouble Every Day. Après avoir vu ces émeutes à la télé, il compose sur le vif cette chanson qui figure sur Freak Out, premier double album concept de l'histoire du rock. Un album manifeste contre l'Amérique des 60s, ses matraquages radiophoniques, sa violence et sa niaiserie ambiante. Frank Zappa, Trouble Every Day. Well, I'm about to get upset from watching my TV, checking out the news. I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, and when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot. I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing around. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day.
cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so.
Un groupe va directement s'inspirer de ces émeutes de Los Angeles en s'appelant The Watts Prophets, groupe de spoken word avant-gardiste. Bien avant The Last Poets, ils ont lâché leur poésie sur fond sonore très divers. On s'écoute le morceau I Remember Watts, The Watts Prophets.
To light up New Orleans, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Detroit, New York, and most major cities of the world. It takes trillions and billions and millions of watts to light up Los Angeles. It only took one.
One.
I remember Watts.
Me
yeah,
too,
I remember
man.
Watts.
With her eyes saddened with hunger. And her empty pots.
And her empty pots.
I'm a place gone. Where winos and have-nots took their treasured possessions to pawn shops.
How much would you give
103rd
him a
and
How much would
other
give
spots.
Him a soul?
And I can remember her old men sitting around on boxes.
On boxes.
In front of pool halls. And in alleys and vacant lots.
Vacant lots.
Drinking wine. Playing checkers. And telling each other how this young generation was going to pot.
Crack and stuff like that.
Yeah. I remember Watts.
Yeah, I remember Watts.
And I can remember her icy lips kissing cold winter nights.
Cold.
As our ghetto come to life with all its strife.
I'll kill you.
In gambling houses and night spots.
Dice be
with
nice.
Strong-on robberies and Uzi fights.
This is a hold-up.
All a part of ghetto life.
All a part of ghetto life.
And I can remember warm days. Warm days of running around with no shoes or socks.
No shoes, no socks.
But lots and lots of cops stopping us on our way to and from school.
Cops.
Searching our little baby sisters. Breaking all of morality's rules.
Breaking all morality's
rules. Or maybe just slamming young brothers against walls.
Don't search my mother.
Across police cars.
Hey, man, I ain't
cracking our heads open whenever they choose.
Why you
treating us like we were fools.
Fools.
That's what lit Watts fuse. Yeah.
C'est dans ce contexte très tendu qui suit les premières émeutes des quartiers noirs que Wayne Newton et Bobby Seale fondent en 1966 le Black Panther Party à Oakland en Californie, une organisation à vocation sociale et protectrice dans un premier temps puisqu'ils voulaient protéger les communautés locales des brutalités policières et du racisme. Leur but premier était aussi d'établir des cliniques pour les familles pauvres et de procurer la nourriture aux écoliers. Ils ont œuvré dans ce sens et ont offert également de nombreux services gratuits, vêtements, vaccinations, leçons d'autodéfense et de premiers soins, transport vers les prisons pour les familles des détenus. Ils organisaient aussi des rondes de nuit pour surveiller les pratiques de la police. Le fameux deuxième amendement de la Constitution américaine leur autorisait de fait le port d'armes et ils ne s'en privaient pas. Ce nouveau militantisme noir qui apparaît alors en 1966 s'exprime de nombreuses manières. Choix de noms swahili, yoruba ou arabe, adoption de la coupe afro, adoption de robes africaines, attrait pour l'islam. Un personnage comme Cassius Clay est emblématique de cette évolution. Cet immense boxeur, grande gueule et héros de la communauté noire adhère à la Nation of Islam comme Malcolm X et change de nom pour devenir Mohamed Ali. Il ne cessera jamais de placarder sa fierté d'être noir et côtoie les organisations nationalistes noires. On écoute le morceau Cassius Clay de Dennis Al Capone.
Coming from the top of the mountain, the man called Cassius Clay is back again, you know. Bobbing and weaving and moving away. The man called Cassius Clay is the honor of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa ji wawa, di wawa ji wo. Tell you, wawa ji wawa, di wawa ji wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive. Saying wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do you think I let me your swing. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Frazier. Ha! Four man on the top. But when Cassius Clay come, he drop. So, wawa, jiwawa. Jiwawa, we who? Ha! Do your thing and do your thing. So, brother, come and down and swing. Do your thing, yeah. Great sound that leads away. The brother called Cassius Clay, the other of the day. So, the wawa, jiwawa. Jiwawa jiwo, na wawa jiwawa, jiwawa jiwo. I with a left and a right and a left, and this gonna be ha. See the fight of the night, y'all. See the wawa jiwo. Ha, do it to me. What, baby? Cassius Clay say. Brother is the order of the day. I'm the greatest, you know. Oh! I say jiwawa, jiwawa. Wow! Jiwawa, jiwo. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Wow! Move and groove, move and groove. Oh! Cassius Clay in the ring. Brother is doing his own thing. I say jiwawa, jiwawa. Jiwawa, jiwo. I do your thing, do your thing. Ha, do it, yeah. I'm the greatest heavyweight champion of the world. Cassius Clay is coming back to retain his title. So move away, Judge Foreman, move away. When the man Cassius Clay come your way. Ha, I've been weeping, you know. Say jiwawa, jiwawa. Jiwawa, jiwo. I do your thing, do your thing. Let me see you swing, wow! But with a right and a left, and it a left and a right, wow! And this gonna be ha! A lot of fight of the night. Cassius Clay and Judge Foreman, you know. Wow! Move it up, and I tell you, I say jiwawa jiwo, doobie doo doobie doo, a doobie doo bibi doo, wow! Doobie doo doobie doo.
La création du Black Panther Party et ses multiples actions vont créer de fait un véritable contre-pouvoir organisé qui n'incluait d'ailleurs pas uniquement que des Noirs, bien évidemment. Ça va faire chier les autorités et la chasse à la panthère va être menée par le FBI dès la fin de l'année 1966 et ce jusqu'en 1971. Arrestations, assassinats, passages à tabac, prise d'assaut de domicile. Les membres influents des Black Panthers vont tous morfler pour leur engagement dans l'organisation. Ennemi public numéro 1 de l'administration Nixon. Presque tous les leaders des Panthers seront emprisonnés à un moment donné, souvent pour des délits mineurs. Et certains mourront en prison, comme George Jackson, condamné à un an de prison pour un vol de $70. Il crée une antenne du Black Panther Party dans la prison de Saint-Quentin, où il est alors condamné pour le meurtre d'un gardien. Transféré dans le quartier de haute sécurité de la prison de Soledad, il consacre son temps à l'écriture et publie Soledad Brothers, Letters from Prison. Il meurt en prison alors qu'il tentait de s'échapper. Cette mort pousse alors Dylan, toujours aux avant-postes, à composer un éloge sobrement intitulé George Jackson, qui dépeint les désillusions de la présidence Nixon. On écoute cette chanson, Bob Dylan.
This morning, there were tears in my bed. They killed a man I really loved. They shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. I prison for a $70 rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. He wouldn't take shit from no one. He wouldn't bow down on deal. Authorities, they hated him because it was just too real. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. They cursed him as they watched him from above. But they were frightened of his power. They were scared of his love. Lord, Lord, so they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground.
Les musiciens de jazz se laissent séduire eux aussi par les thèses de Malcolm X et les idées du Black Power, qui prend toute sa signification avec la vague de décolonisation africaine dans les années 60. Certains se convertissent à l'islam et cherchent à limiter au maximum dans leur discours musical les influences européennes. Les jazzmen se tournent alors délibérément vers l'Afrique comme Art Blakey ou Max Roach. Les artisans du free jazz, Archie Shepp, Cecil Taylor, Ornette Coleman, proches des Black Panthers, entendent eux aussi libérer le jazz. Youssef Latif, Roland Kirk, John Coltrane puisent aux sources des musiques arabes et indiennes qui permettent une liberté totale d'improvisation. Le jazzman Archie Shepp, quant à lui, compose Malcolm Sumpter Malcolm. C'est le morceau qui passe derrière en hommage au leader assassiné. Le saxophoniste Joe McPhee enregistre Nation Time, un long morceau en forme de prêche inspiré de Leroy Jones et par l'espoir d'une nation noire unifiée. On écoute ce deuxième morceau de Joe McPhee, en tout cas une partie. Il s'appelle Nation Time. bien un groupe de musique qui symbolise le Black Power de ces années-là. C'est The Last Poets. Proche des Black Panthers, le groupe fait partie des précurseurs du spoken word avec The Wax Prophet et influencera bon nombre de rappeurs. Il s'est formé le 19 mai 1968, le jour de l'anniversaire de Malcolm X dans le ghetto d'Harlem. On écoute le morceau au titre explicite Wake Up Niggas. On aura ensuite dans la même mouvance Jill Scott et Ron avec Evolution and Flashback. A tout.
Again.
Wake up.
And with the death of the sun, night and blackness become one. Blackness being you, peeping through the red, the white, and the blue. Dreaming of boss black civilizations that once flourished and grew. Hey, wake up, niggas, are y'all through? Drowning in a puddle of the white man's spit as you pause for some draws in the midst of shit and ain't got nothing to save your funky ass with. You cool.
Sheet of paper that I didn't go into. It's called Evolution, and in the middle of this poem called Evolution, we're going to interject something called Flashback. Yeah. In 1600, I was a darkie. Until 1865, a slave. In 1900, I was a nigger. Or at least that was my name. In 1960, I was a Negro. And then Brother Malcolm came along. And then some nigger shot Malcolm down. But the bitter truth lives on. Martin is dead. With Martin as our leader, we prayed and marched and prayed. Things were changing, things were getting better, but things were not together.
à la recherche du groove perdu, session 204 en direct des studios de RDWA. Émission dans la série des protest songs intitulée Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Émission centrée sur le Black Power des années 60 et 70. Et vers la fin des années 60, le blues, lui, est rejeté, car stigmatisé par les jeunes générations noires comme la musique, des esclaves, la maison de disques, telles que Stax Records et Motown sentent les profits commerciaux à venir et ne souhaitent pas rester sur le carreau. Elles instrumentalisent le courant et concourent à la révolution culturelle noire. Elles aussi, certains artistes soul s'accaparent les thèmes chers aux panthères et composent des morceaux militants. En 1969, Helen Brown enregistre l'album Seize the Time. En 1969, dont est extrait le morceau The Meeting qui servira d'hymne officieux aux panthères Helen Brown.
Yes, he bend anyone past the eyes of my life, and he nodded and sang without sound, and his face had the look.
Comme je l'ai dit avant, cette chanson de Helen Brown, les thèmes du Black Power sont tellement populaires dans la communauté noire à cette époque que même des labels habitués aux sucreries sentimentales comme Motown vont se mettre à produire des chansons sur ce thème. L'exemple de la chanson culte de Marvin Gaye, What's Going On, et de son histoire est très révélateur de l'état d'esprit de cette maison de disques au début des années 70. Marvin Gaye, en contrat avec le label depuis 1961, n'a pas sorti grand chose de concluant commercialement depuis quelques années. Nous sommes dans la charnière 1969-1970. La pression est sur lui, mais on lui laisse quand même malgré ça son indépendance artistique. Il convoque alors deux membres des Four Tops et compose avec eux l'hymne What's Going On. Berry Gordy Jr., l'impitoyable patron fondateur de Motown, va refuser catégoriquement dans un premier temps de le sortir en single car jugé trop politisé. Il ne voulait pas déplaire à son public plus habitué selon lui à des textes légers. Marvin Gaye ira contre son avis et dans son dos avec l'aide d'un autre membre du label. Il sort quand même le single en mai 1971, c'est un succès immédiat et Gordy obligé de reconnaître bien évidemment son feeling foireux sur le coup. Après What's Going On, la maison Motown n'hésitera plus à produire des chansons engagées, mais c'est l'appât du gain qui a été plus fort bien entendu que la fibre révolutionnaire du patron. On écoutera après Marvin Gaye, Eddie Kendricks, membre des Temptations, avec le morceau My People Hold On. C'est parti pour cette petite série Motown. À tous.
There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Right on.
L'un des tout premiers groupes de soul à proposer des textes ouvertement engagés sur la cause des Noirs sera The Impressions. Ils vont acquérir une grande popularité grâce aux compositions du grand Curtis Mayfield comme Keep on Pushing, People Get Ready, Choice of Colors ou encore This Is My Country. Le titre We Are A Winner deviendra l'hymne du Black Power et Keep on Pushing celui du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Mayfield devient alors un des pionniers de la fierté noire aux côtés d'autres artistes comme James Brown ou Sly Stone. En 1970, Curtis Mayfield quitte le groupe et recommence une carrière en solo sous le label indépendant Curtom Records. Il restera très engagé tout au long de sa carrière solo et on écoutera un morceau de son album Curtis après deux de son groupe des années 60, The Impressions.
Mighty, mighty, Spain wide. together say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boyish grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. High yellow girl, can you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your mind could really see, you'd know your color is same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory. Tell the whole story.
Contrairement à beaucoup de ses collègues soulmen comme Curtis Mayfield qu'on vient d'écouter, James Brown, lui, n'a jamais prôné la révolution ni versé dans la chanson contestataire. Surtout, il avait une version bien à lui du Black Power. Il avait pris l'habitude d'haranguer les foules avec des discours vantant l'estime de soi, la volonté, le mérite du mec qui s'est fait tout seul. C'était sa version du Black Power à l'époque. En 1968, James Brown est dans le collimateur de toute une partie de la communauté noire, à commencer par le leader des Black Panthers. Pour eux, l'artiste est un Uncle Tom, un noir capitaliste à la solde du pouvoir blanc. On lui reproche notamment son amitié avec le vice-président Hubert Humphrey. Il reçoit des courriers, malveillants et n'est pas très à l'aise avec ce climat délétère. Il louvoie surtout en permanence pour échapper aux tentatives de récupération politique. Dans les faits, son succès est tel qu'il ne peut échapper au rôle de porte-parole que l'Amérique veut le voir endosser. D'ailleurs, au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, James Brown a aidé les politiques locaux à garder Boston étanche aux émeutes. Alors, pour faire taire ses détracteurs, il doit se positionner. Il rêve de marquer les consciences avec une chanson. Il a l'accroche et l'esprit. Say it loud, I'm black and I'm proud. À sa sortie, certaines radios refusent de diffuser cette chanson. James Brown rétorque par une tribune dans la presse et troque sa banane contre une coupe afro. Malgré les polémiques, la chanson est un vrai carton. 750 000 exemplaires vendus. Rien que sur les deux premières semaines. Plus tard, James Brown soulignera que cette chanson lui a coûté une partie de son public blanc. James Brown était aussi l'homme des paradoxes. On l'écoute sur cette chanson culte, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Termine cette émission, session 204, podcastable dans les plus brefs délais, rediffusion le jeudi à 10h. J'en ai terminé avec ce six sur la cause des Noirs aux États-Unis. La semaine prochaine, on abordera un autre thème, mais toujours lié au protest song, celui de la guerre du Vietnam, très largement commenté à l'époque par des artistes de tous bords musicaux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de James Brown pour ces derniers instants de l'émission. C'était à la recherche du groove perdu sur RDY. Ciao.